Alors, je me retrouve aujourd'hui avec Monsieur Nagouimbert à la sortie, à la fin de cette journée de conférence sur la question de la tension entre aide humanitaire et crise migratoire. Pour présenter Nagouimbert en deux mots simplement, alors c'est le fondateur de Médecins du Monde Suisse, professeur à l'Université de Montréal et aujourd'hui, présentement, organisateur de cet événement en tant que président de l'Observatoire d'éthique et de santé humanitaire, basé à Neuchâtel. Alors, on va essayer de faire assez court, mais simplement quelques petites questions un peu générales. N'hésite pas un peu à élaborer, voilà. Avec ta grande expérience, que ce soit autant en termes de coopération, d'aide humanitaire, des questions éthiques qui les entourent et des questions de migration. Quel regard tu portes un peu sur l'évolution des migrations à travers un peu les décennies? Et puis, voilà, est-ce qu'on est passé parce qu'il y a des époques où on était plus dans des migrations forcées, dues à la guerre, à la faim, aux désastres environnementaux. Dans quel cadre temporel tu nous places un peu aujourd'hui?
Ce que j'ai pu entendre aujourd'hui aussi, ce qui était intéressant, c'est de montrer l'évolution entre l'espèce d'accueil général, j'irais sans passeport, accepté par la société suisse de 1956 à nos jours. En 1956, c'était les réfugiés hongrois qui quittaient une révolution réprimée par un pouvoir soviétique, et donc c'était des bons réfugiés qui fuyaient les régimes communistes. Et ici, il y a aucun filtre. Ils arrivaient, le Conseil fédéral avait décidé qu'on en masse, on acceptait les gens, et ce qui était très bien. Et maintenant, les restrictions, une à une, et quand on entend le professeur Amarel qui nous décrit un petit peu les juridictions, où on voit que arrêté après arrêté fédéral, l'espace, la porte, je dirais, se referme de plus en plus, et ça n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé en 56 et en 68 avec les Tchécoslovaques.
Mm-hmm. Au niveau du contexte, alors on a parlé d'un contexte un peu général des migrations, on en a discuté un petit peu aujourd'hui d'ailleurs, mais la question de la migration, elle a été extrêmement portée il y a quelques semaines pendant les élections. Donc on a vu, bien sûr, le parti sorti vainqueur de ces élections. Et selon toi, avec aussi ta connaissance du système suisse, du système politique suisse, est-ce que tu penses qu'il y aura des implications concrètes durant ces quatre années? Ou alors, est-ce que les sentiments qu'ont essayé d'éveiller l'UDC, est-ce que ça aura des implications, surtout dans le contexte migratoire dans lequel nous sommes?
Alors, d'abord, je pense une chose, s'il y a une contradiction totale dans ce parti, où d'un côté, il baisse les budgets du développement, puis de l'autre, ils disent qu'il faut les aider là-bas pour pas qu'ils viennent ici. Donc, je ne comprends pas très très bien, n'est-ce pas? C'est malheureusement un peu défendu par notre ministre des Affaires étrangères aussi, qui dit que la priorité des intérêts suisses est avant tout... en gros, ça doit nous rapporter le développement, ce qui est aussi une bêtise totale et surtout pas très généreux. Par contre, oui, je pense que la victoire de l'UDC va avoir des conséquences. Déjà, d'après... Madame Crotta, qui était là, conseillère nationale, elle sait la situation, et que la droite et l'extrême droite, en gros, s'est renforcée, et que déjà dans cette législature, maintenant qu'il se finit, c'était extrêmement difficile de faire soit passer des projets progressistes. Par contre, les projets de restrictifs, et notamment par rapport aux migrants, passent facilement. Donc, je pense que ils vont se sentir encore plus forts pour fermer encore la porte un peu plus.
Et puis, tu parlais du coup, en effet, des contradictions que peut avoir certains partis, en l'occurrence ici l'UDC, par rapport à son objectif, qui est qu'il y ait le moins de personnes possible qui viennent, et en même temps, il coupe les budgets dans ce qui pourrait en partie peut-être être une partie de la solution, donc la coopération, ou des budgets, des fonds alloués quand même au fait de régler certaines crises. Par rapport à cette question-là, par rapport à cette question des solutions et par rapport aux migrations forcées, simplement de manière très générale, à tes yeux, et donc ça pose aussi la question du titre de la conférence d'aujourd'hui, en quoi les enjeux de l'aide humanitaire et de la migration, elles sont liées?
Oui, alors, c'est Je pense que c'est une illusion de penser que l'aide au développement va empêcher les gens de voyager. Mmh. Par contre, ceci, ça peut donner les meilleures conditions de vie, des meilleurs hôpitaux, des meilleures écoles, des meilleures pour les formations. Ça, c'est vrai que les gens vont vouloir plus rester chez eux. Donc, personne va immigrer par plaisir. Hein. Oui. Il y a des gens qui immigrent par intérêt, comme moi je l'ai fait en allant au Québec, mais c'était professionnel. Mmh. Et puis, sinon, quand t'es obligé à cause d'une catastrophe, d'une guerre, de la pauvreté, pour sauver ta peau de partir, je pense que l'action humanitaire a aucun pouvoir. Mmh. Aucun. Mmh. Par contre, elle peut être toxique, et c'est intéressant d'écouter les anthropologues qui montraient combien les camps de réfugiés encadrés par les humanitaires peuvent devenir des zones que les humanitaires participent à la sécurité, oui, au fichage des gens. Mm-hmm. Ça, c'est j'avais jamais évidemment pensé à ça. Mm-hmm. Et à ce moment-là, mm-hmm, ben, on devrait pas participer à ce fichage, à ce flicage, à ce domaine sécuritaire.
Donc, plutôt une réponse presque plus politique du coup à donner. Voilà. Mais ou alors, est-ce qu'il peut y avoir une alliance entre les travailleurs dits humanitaires, avec toutes les critiques qu'on peut faire sur ce terme, et puis, ou alors on parlait du fait que les actions humanitaires peuvent se politiser ou pas se politiser, ouais, et que donc c'est un impact dans le débat public et dans les implications politiques.
Ben, écoute, je veux dire, d'abord les humanitaires, l'humanitaire c'est politique. Il faut arrêter de se cacher, ça me fait rire. On est neutre, on n'est pas neutre. On doit être indépendant pour pouvoir parler, mais les ONG humanitaires sont de moins en moins indépendantes. Ils dépendent justement, mm-hmm, de l'argent des bailleurs qui effectivement eux sont pas neutres, je peux te dire. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est les bailleurs qui choisissent les victimes actuellement. Mm-hmm. C'est assez dramatique. Hein. Mm-hmm. Il y en a qui méritent plus que d'autres d'être aidés, et malheureusement de plus en plus les ONG humanitaires vont où il y a l'argent. Mm-hmm. Déjà là, ils sont plus neutres. Mm-hmm. Par contre, travailler, moi je pense qu'ils doivent rester indépendantes, en tout cas des États, des pouvoirs économiques, mais c'est très très compliqué. Regarde le CICR. Le CICR, c'est les États qui font, qui payent le budget. Mm-hmm. Ils ont eu des gros problèmes ces derniers temps, ils ont dû licencier plus de 2000 personnes, si ce n'est plus, parce que ils ont grossi, puis ils ont pensé, ça c'était, mm-hmm, l'ancien président qui, mm-hmm, pensait qu'avec ses copains de Davos, mm-hmm, les privés allaient compenser les baisses des budgets alloués par les États. Ouais. Ça a craché. Donc justement là, il faut faire extrêmement attention. Et dans ce sens-là, il y en a peu qui peuvent être vraiment très indépendants, à moins que tu aies une grosse fortune, puis que toi-même, tu décides, et encore, comment vas-tu te décider d'aider celui-ci ou celui-là, c'est non plus pas neutre. Mm-hmm. Mais je, mm-hmm, pense que, à part ça, d'être dirigé par un État, alors ça c'est catastrophique, mm-hmm, qui, mm-hmm, va dire tu vas là, tu vas pas là, ou par un bailleur. Moi, je me rappelle au Chiapas, il y avait des fonds qui nous avaient été offerts par USAID. Mm-hmm. Ils disaient, vous soignez ceux-là, mais pas ceux-là. Donc, mm-hmm, le commandant Marcos, ça n'allait pas. Tu vois, je veux dire, c'était. Alors là, on a refusé. Ça, c'est pas possible.
Ouais. Mm-hmm. Voilà. Encore une autre mini-question qui est plus, on va dire, contextuelle, et aussi parce qu'on l'a traité, nous, dans un des derniers, ce qu'on appelle les flash infos. Bon, bien sûr, c'est la question Israël-Palestine. Toi, tu as travaillé pendant de nombreuses, ah oui, années en Palestine, en territoire occupé, et dans la bande de Gaza, oui, aussi. Oui. Nous, on a un média qui s'axe principalement sur toutes les questions de migration. Et donc, nous, ce qu'on avait traité, c'était les déplacés internes,
ouais,
dans la bande de Gaza. Donc là, on parle d'à peu près 1,5 million, mais maintenant, on ne sait plus de... Parce qu'il y a eu toute la partie d'abord des bombardements, ouais, où il y a eu tous les déplacés. Et après, il y a eu les appels à l'évacuation. Ouais. Donc, bref, les chiffres sont hallucinants. Bref. Et donc, par contre, toi qui es spécialisé dans la question de la santé, qu'est-ce que tu dirais qu'il y a eu comme impact ces déplacements, les bombardements, enfin, compilés aux bombardements, eh ben, qu'est-ce que ça impacte sur les hôpitaux à Gaza? Alors, on a des images hallucinantes. Ces dernières semaines. Mais toi qui connais un peu de l'intérieur.
Ben écoute, moi je suis en relation régulière, j'ai les rapports tous les matins du Croissant Rouge palestinien. Et que je mets en doute, je suis pas en doute, puisque j'étais un de leurs collaborateurs il y a 30 ans, j'ai travaillé pour l'OMS là-bas dans les territoires. Mm-hmm. J'étais 5 ans à peu près. Et c'est, un, c'est effroyable ce qui se passe. Et puis, ce que je peux te dire, c'est que ça a un impact sur la santé des gens énorme. Mm-hmm. S'ils sont pas tués, ils sont bien remplacés. Mais surtout, ça a un impact sur toutes les maladies chroniques qu'on a oubliées. Mm-hmm. Si t'as besoin d'une dialyse, si t'as besoin d'insuline parce que t'es diabétique, mm-hmm. tu vois, tous ces gens-là, ils vont se détériorer
tout le suivi,
par manque de médicaments et de matériel.
Ouais.
D'une part. Deuxièmement, c'est un impact terrible sur les personnels de santé. Mm-hmm. Donc, d'après mes derniers chiffres, mais j'aime pas cette comptabilité, mais en gros, il y a 300 personnes qui sont décédées des personnels de santé, donc des médecins, infirmières, ambulanciers, mm-hmm. et tous les hôpitaux ont été touchés. Ouais. Alors, je peux te dire tous les hôpitaux, et ce qu'on trouve inadmissible, c'est que l'armée israélienne, pour se déculpabiliser, appelle une heure avant, en disant évacuer l'hôpital. Je ne sais pas ce qu'ils savent, ce que c'est un hôpital, mais c'est de... Donc ça c'est des impacts absolument directs. Après, il va y avoir les impacts secondaires, ça va être épouvantable. Je ne sais pas comment les gens vont se relever de ça. Et puis là, c'est intéressant parce qu'on parlait de migration. Mm-hmm. Et là, un des objectifs de Netanyahou, mm-hmm. c'était de pousser les gens de Gaza à l'extérieur de la bande de Gaza, donc dans le Sinaï, puis on fait des nouveaux camps de réfugiés. Mmh. Et la plupart des gens qui sont à Gaza sont des enfants, des petits-enfants, des réfugiés de 48, imagine-toi. Donc ça fera et puis il y a des gens qui vivent encore. Ça sera un deuxième exode dans leur vie, de leur pays, au départ, sur leur terre. Donc je pense que mais eux voudront. Alors eux, on n'a aucun risque de vous dire en Suisse, je te dis de suite, que les Palestiniens viennent chez nous, parce qu'ils sont tellement attachés à leur terre, que c'est ce que je disais ce matin dans la pénurie du personnel de santé, mm-hmm. eux, ils sont toujours rentrés après avoir fait leurs études de médecine, d'infirmière et tout, mm-hmm. et si on leur tire pas dessus, puis qu'on les bombarde pas, ils vont rester là.
Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Merci beaucoup, Nago.